Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Kiaran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Bruno Gagnard-Fontanille. C'est tout sauf une surprise. Les députés communistes ne voteront pas la confiance au gouvernement mardi prochain. Tout à l'heure, Olivier Dartigneul, le porte-parole du Parti communiste français, appelait à mettre Manuel Valls hors d'état de nuire, histoire, dit-il, de recréer une perspective pour du progrès social, pour de la démocratie. Alors à elle seule, cette annonce n'est certainement pas en mesure d'inquiéter l'exécutif, car les communistes ne pèsent plus très lourd à l'Assemblée nationale. 7 élus depuis 2012, 10 si l'on compte l'ensemble des forces du front de gauche, auxquelles on pourrait encore ajouter 5 élus ultramarins. Même associés aux voix de la droite, ça ne fait pas une majorité. Il faudra compter avec les députés socialistes frondeurs. Car ce sont ces derniers qui détiennent les clés du vote de mardi prochain. Et ce sont eux encore qui semblent aujourd'hui le mieux incarner les idées de gauche. Et c'est d'ailleurs toute l'ironie de cette première partie de quinquennat. En allant piocher des recettes sur sa droite, le gouvernement a réussi à redonner de la visibilité à l'aile gauche du PS. Dans un tel contexte, le PC a bien du mal à exister. Son secrétaire national, Pierre Laurent, s'était déjà laissé voler la vedette en 2012 par Jean-Luc Mélenchon. Et les dernières élections municipales n'ont pas arrangé les choses. Le parti a perdu une cinquantaine de villes de plus de 3500 habitants. Pourtant, il suffit de faire un tour au rayon essai des librairies pour constater que la critique du capitalisme ne s'est peut-être jamais aussi bien portée. Alors à la veille de la fête de l'humanité, nous posons la question ce soir. À quoi servent encore les communistes? C'est donc notre sujet du jour. Et pour mener cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir deux grands témoins très directs de l'histoire du Parti communiste français, puisqu'ils ont tous les deux adhéré au PC la même année, à la Libération, en 1944. Sauf que l'un est resté et l'autre pas. Celui qui est resté, c'est vous, Henri Malberg. Bonsoir.
C'est moi, oui.
Vous avez 70 ans de militantisme au PCF, vous avez été secrétaire de la Fédération de Paris du Parti, conseiller de Paris de 1965 à 1985. Vous venez de publier aux éditions de l'Atelier « Incorrigiblement communiste ». Vous avez forcément croisé dans votre vie de militant notre deuxième invité, au moins d'ailleurs dans les couloirs de France Nouvelle, puisque vous en étiez le responsable, me semble-t-il,
oui.
Pendant que Gérard Belloin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous occupiez du secteur culturel, c'est bien ça?
Rubrique culturelle. Oui.
Rubrique culturelle. Gérard Belloin, donc bonsoir. Vous êtes-vous resté pendant 36 ans au Parti communiste, oui, jusqu'en 1980. Donc vous avez fait la moitié du chemin de militant d'Henri Malberg. Vous avez donc exercé au PC des fonctions, au-delà de celles qu'on mentionnait à France Nouvelle, de directeur de l'école des cadres. Vous avez également été membre de la section chargée de l'activité parmi des intellectuels. Et vous publiez aux éditions du Bord de l'eau « La fin du rêve socialiste, l'impasse du XXe siècle », livre dans lequel il n'est pas uniquement question des communistes, il est également question du PS, mais enfin le PC, forcément, puisque vous y avez été pendant de longues années, a une large place dans cet ouvrage. Alors, je voudrais revenir pour commencer cette discussion entre vous deux et pour sceller ces retrouvailles, puisque je crois que ça faisait quelque temps que vous ne vous étiez plus croisés. Henri Malberg, je voudrais revenir sur le titre que vous avez choisi pour votre ouvrage, qui est une série d'entretiens en fait, avec deux jeunes journalistes qui essaient de comprendre finalement pourquoi, 70 ans après, vous êtes toujours à ce point communiste. Le titre, c'est « Incorrigiblement communiste ». Ça laisse presque entendre que, on pourrait se dire, malgré toutes les raisons de ne plus l'être, vous l'êtes encore. Est-ce que c'est comme ça que vous vouliez le faire passer?
Non. C'est un clin d'œil. Le titre n'est pas de moi, c'est l'éditeur qui a vu que j'avais terminé le livre par « Incorrigiblement optimiste » sur la suite. Et il m'a dit « ça serait mieux de dire « incorrigiblement communiste ». Et depuis que ce titre, que ce livre circule, les gens me disent « c'est bien moi ». C'est-à-dire, je suis conscient, je crois, des limites. Je ne me raconte pas trop d'histoires. Mais mon parti, c'est le lieu où on peut le mieux, à mon avis, mener la lutte à laquelle je crois. Donc c'est incorrigible.
Vous ne vous racontez pas trop d'histoires, mais vous racontez votre histoire, ce qui n'est pas le cas du livre de Gérard Belloin, où vous apparaissez très peu à la première personne. C'est vraiment un récit de ce qu'a été l'histoire du socialisme. Je le disais, vous avez quitté le PC Gérard Belloin en 1980. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, et que même à l'époque, vous n'êtes plus communiste? Ou bien est-ce qu'on peut encore être communiste tout en ayant quitté le parti?
Je dirais que je ne suis plus communiste, pour que les choses soient tout à fait claires. Parce que je m'aperçois en lisant le livre d'Henri Malberg que être communiste, c'est assurer l'histoire du Parti communiste sans porter sur elle un regard critique. Alors, de ce point de vue, je ne peux pas dire que je sois communiste. On repose la question de l'utilité du Parti communiste. Mais cette utilité, elle n'est pas indépendante de sa crédibilité. Or, pour que le Parti communiste soit crédible, faudrait-il encore qu'il soit au clair avec son histoire ? Or, je dois constater que c'est pas ce que fait Henri dans son livre.
Alors écoute, Henri Malberg, peut-être déjà une première réponse à ce que vient de dire Gérard Belloin.
Je trouve Gérard injuste. Faut dire qu'on se connaît et qu'on se respecte, et on va se respecter tout le temps, mais il est injuste. Parce que je crois porter un regard critique. Par exemple, j'ai fait des pages sur l'affaire Fisbin, c'est-à-dire un conflit politique fort où j'ai joué un rôle. Et je m'aperçois avec le recul qu'au fond, des deux côtés, j'ai fait 20 pages sur le stalinisme quand même. Et là, je fais les comptes, je crois. C'est bien la première fois que je m'attelais à cette tâche, c'est critique. Et puis, je termine. Mon regard critique tient au fait que il me semble que je vois aussi bien que Gérard les moments clés où on aurait dû peut-être faire autrement. Mais je pense que le Parti communiste n'a pas écrit que sa propre histoire. Il y a eu 20-30 ans de dégénérescence, par exemple, du socialisme soviétique après l'occupation de Prague. Et nous ne sommes pas comme des combattants dans un ring, sur un ring, dont on ne verrait que l'agitation d'une personne, sans savoir qu'en face, il y a des adversaires, il y a des gens qui se battent aussi. Voilà, donc je te trouve un peu injuste, mais j'accepte qu'on me fasse des critiques. Donc en même temps, je le prends comme une réflexion.
Je vais continuer à être injuste.
Voilà.
Parce que tu parles. Écoute, quand j'ai lu ça... Tu parles d'un bilan historique, s'agissant de l'URSS, où se mêlent les plus grandes conquêtes et, hélas, trop souvent le pire. Mais je voudrais savoir où sont les plus grandes conquêtes.
Est-ce que je
tu ajoutes, quand on écrira l'histoire un peu objective de cette époque, mais elle a déjà été largement écrite, l'histoire objective de cette époque. Or, je n'ai pas trouvé dans ton livre le mot « goulag ». J'ai pas trouvé le beau pacte germano-soviétique. Il y a toute une série qui sont, c'est à mon avis, plus que des omissions qui sont que je te reproche.
Henri Malberg.
Oui. Comme c'est la partie du livre sur laquelle j'ai peut-être le plus sué, je continue de te trouver injuste. On ne peut pas faire comme si la révolution d'octobre en 1917, n'avait pas été un signal mondial extraordinaire. Dans le monde entier, des intellectuels, des chercheurs, les travailleurs ont cru, ont espéré et ont cru que c'était le début d'une nouvelle ère. Et dans notre pays, le Congrès socialiste a décidé aux trois quarts d'adhérer à l'Internationale communiste. Ça veut donc dire que pendant toute une période, l'immense espoir, malheureusement détruit, de la révolution russe a joué un rôle partout. Et, je termine, quand même, les 25 millions de morts de l'Union soviétique qui ont permis de vaincre Hitler, il y a eu 50 millions de morts, et nous étions enfants à l'époque. 25 millions venaient de l'URSS. 50 fois plus que la plupart des pays. Donc, ne pas entériner ça comme un moment de l'histoire du XXe siècle, voilà, c'est passer à côté de la vie réelle, ce qui n'empêche pas ma critique, ce que je dis du stalinisme, évidemment.
Alors, on parle de 1917, du stalinisme, de la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais vous renvoyer pour évoquer peut-être ce que sont les idées communistes et ce que sont les communistes aujourd'hui à une période un petit peu plus contemporaine.
Tôt ce matin, la limousine noire de Mikhail Gorbatchev rentre au Kremlin. C'est la dernière journée du président soviétique à la tête d'un pays qui déjà n'existe plus. Tout est programmé. Mikhail Gorbatchev a déjà fait hier ses adieux à ses collaborateurs. Il enregistrera son texte de démission à la télévision soviétique cet après-midi. Avant, il recevra des télévisions américaines. Alentour, tout est calme. Les employés du Kremlin s'emploient à installer les décorations du nouvel an. La transition du pouvoir se fait dans la paix.
Bon, Gérard Bellouin, ça c'était le 25 décembre 1991. Mikhail Gorbatchev démissionne de son poste de président de l'URSS. Le lendemain, l'URSS n'existe plus. C'était il y a plus de 20 ans. Est-ce que, au moins, la disparition de l'URSS ne devrait pas permettre, quand on parle des communistes aujourd'hui, de ne plus les renvoyer systématiquement vers cette période? Est-ce que ça n'a pas permis, au moins, à l'utopie communiste de se régénérer un peu? Parce qu'elle n'avait plus ce poids du grand frère à côté d'elle.
Je vais y venir. Mais avant, je voudrais dire que, évidemment, l'Union soviétique a consenti les énormes sacrifices dont tu as parlé. Tu parles de 25 millions de morts. Mais le communisme a fait, en Union soviétique, plus de 25 millions de morts. De cela, tu n'en parles pas. Excuse-moi.
Si Excuse-moi. J'en parle, c'est pas juste, c'est pas vrai. C'est J'espère que les gens qui nous écoutent vont acheter le livre.
Voilà, je crois que le meilleur conseil, c'est sans doute d'acheter vos deux livres, hein, La fin du rêve socialiste de Gérard Bellouin et Incorrigiblement communiste d'Henri Malmberg.
Ça me permet...
Mais pour parler de l'après, maintenant.
Oui, bien de l'après.
Et d'aujourd'hui, surtout.
Et d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'alternative à la société telle qu'elle évolue actuellement, c'est bien parce que pèse sur dans l'opinion, le souvenir de ce qu'a été le communisme. Tu parles de la révolution d'octobre qui a ouvert une ère nouvelle dans l'humanité. Mais l'erreur du Parti communiste, et j'y ai été associé à cette erreur, ça a été de considérer que l'Union soviétique était la forteresse, la pointe avancée, la forteresse de la révolution socialiste mondiale.
Ça veut dire que pour vous, Gérard Bellouin, les communistes servent encore de repoussoir, c'est-à-dire du fait du passé, leur faible audience aujourd'hui serait liée au fait qu'on ait encore une très forte mémoire de ce passé?
En tout cas, le meilleur moyen pour que cette crainte disparaisse, ce serait de faire la clarté sur ce qu'a été l'histoire. Or, le livre de ton livre, c'est un peu l'histoire du communisme racontée à Suzette. Je suis désolé.
C'est pas très gentil ce que vous dites à Henri Malmberg. Henri Malmberg, ce que vous écrivez par rapport aux attaques dont sont l'objet assez régulièrement les communistes, et toujours aujourd'hui, vous écrivez, on ne nous fait pas de cadeaux. Casser le projet communiste est vital pour ceux qui défendent le système actuel. Notre existence leur est insupportable comme une menace que l'on ne parvient pas à étouffer. Finalement, est-ce que vous rejoignez pas, peut-être un petit peu, ce que dit Gérard Bellouin, au moins sur cette idée que les communistes sont vus encore aujourd'hui comme une menace pour l'ordre établi?
Je suis très content que Gérard mette sur le tapis sa question. Comment se fait-il que la deuxième puissance du monde, armée jusqu'aux dents, qui prétendait construire une société nouvelle, s'écroule comme, j'ose pas dire le mot. Ça veut dire que plus personne dans ce pays ne croyait au socialisme.
Ben,
Est-ce que je peux continuer?
Excuse-moi.
Eh oui. Non, mais je l'ai fait aussi. Ça veut donc dire que, avant la Première Guerre mondiale, les luttes de classe ont été terrifiante. Après, on passera aujourd'hui, hein, mais je veux bien qu'on aille au bout. Terrifiant. Les luttes politiques à cause de Staline et puis de l'équipe qui l'entourait se sont transformées en sauvagerie. Après la Seconde Guerre mondiale, Staline meurt assez tôt, en 1953, pendant encore 30 ans, des dirigeants soviétiques. Je pense qu'on crée une situation où, faute de démocratie, je le dis, faute de pluralisme, faute d'intelligence politique, faute de respect du peuple, le socialisme n'était plus cette société dont j'avais rêvé à 20 ans. Et sur la base de cet échec, qui est un échec de ce que je pensais être le communisme, et qui ne l'était pas, tu le pensais aussi à un moment. Sur la base de cet échec, le capitalisme s'est engouffré, ce qu'on a appelé la vague libérale, les Thatcher, les Reagan, la mondialisation, la montée de la finance. Et pendant 30 ans, ils ont mené le bal. Mais ce que je pense en profondeur, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vais rejoindre le PC, aujourd'hui, la crise du capitalisme est aussi profonde et fondamentale que l'était la crise du communisme, du soi-disant communisme, finissant. Et pendant ces 30 ans, ce n'est pas les fautes du Parti communiste, bien qu'il en commette. Pendant ces 30 ans, l'idée que la financiarisation, même le pape, avec une intelligence immense, le cite dans mon livre pendant une page, dit pratiquement ce que je suis en train de dire. Cette société est invivable. Et l'heure vient, à mon avis, où des choses comme celles que nous disons reprennent de la force.
Alors comment est-ce que vous expliquez, Henri Malberg, qu'avec une telle crise du capitalisme, avec autant de voix importantes qui critiquent ces dérives, vous citez le pape François, mais vous citez également François Hollande, vous citez l'économiste Joseph Stiglitz.
Et même Sarkozy.
Vous citez même Sarkozy, hein, qui en
son
temps aussi
avait... Il faut faire payer les financiers.
Mais alors comment est-ce que vous expliquez qu'avec une telle crise... le Parti communiste et les communistes ne pèsent pas davantage politiquement aujourd'hui en France?
D'abord, je pense que peser plus est devant nous parce qu'on est courageux, parce qu'on dit ce qu'il faut faire, parce qu'on est unitaire, parce qu'on est meilleur, pas qu'on n'a jamais été, parce qu'on est bon, on est relativement bon. Donc, à mon
bon,
avis,
mais pas très nombreux.
Les gens, pas très. D'abord, il y a 130 000 adhérents, il y a des milliers d'élus, il y a des maires, il y a des militants. Moi, je suis dans l'arrondissement de Paris. Quand on est réunis dans la salle, le tiers des gens ont 25 ans. J'en suis presque étonné, heureux. Donc, je suis à la fois très pressé, à nos âges, on est très pressé, n'est-ce pas, Gérard? Et en même temps, je me dis qu'une nouvelle machine est en route. Et j'entends ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous m'avez fait plaisir. Il paraît toutes les semaines des livres. Il paraît des revues. Il y a des discours qui mettent en cause le système. Comme les communistes font partie du mouvement. Je ne dis pas sont la tête de tout, comme j'ai pensé. Font partie du mouvement qui pousse. Je pense que le peuple nous écoutera un peu plus.
Gérard Belloin, est-ce que la grille de lecture communiste, aujourd'hui, vous paraît pertinente pour mener cette critique du système capitaliste? Ou bien est-ce qu'elle est irrémédiablement dépassée à vos yeux?
Elle me paraît, en tout cas, pour le moins, insuffisante. Et je vais redire ce que j'ai déjà abordé, c'est-à-dire que beaucoup de gens aspirent au changement, mais ne savent pas, ne voient pas par quoi remplacer ce que l'on va détruire.
Ils n'ont peut-être pas très envie non plus, finalement, de le remplacer. Alors, le marché, vous dites dans votre livre, oui, c'est la grande espérance.
Je vais y venir. Le changement est à la fois peut-être autant espéré que redouté, parce que le capitalisme fait des victimes, c'est entendu, et puis je partage ce que tu as pu dire des conséquences du développement capitaliste sur le plan humain, sur le plan de l'écologie, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il produit aussi beaucoup de gens qui jouissent de sa capacité à développer les biens de consommation. Et il y a une crainte de beaucoup qui devant l'idée qu'ils ne pourraient ne plus bénéficier de, ce mouvement incessant de renouvellement des produits, des marchandises. Et c'est pourquoi je pense que, malheureusement, Apple et ses smartphones sont eux qui portent maintenant l'espoir de lendemain qui chante. Je crois qu'il faut voir ça comme ça. Il suffit de voir comment les gens se précipitent lorsqu'ils sortent un nouveau produit. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ça répond à un besoin, mais ce n'est pas suffisant de répondre à ça. Les produits sont utiles, ils rendent des services, mais ils sont aussi une source de jouissance esthétique qui va bien au-delà de l'utilité. Et c'est aussi la jouissance de leur possession, parce que c'est posséder ces objets, c'est une distinction par rapport à celui qui n'y a pas encore accès.
Henri Malberg, est-ce que Gérard Bellouin ne met pas là le doigt sur la principale erreur d'analyse du Parti communiste qui pourrait expliquer, même si vous dites que demain ça ira mieux, mais qu'en tout cas, depuis de nombreuses années, l'influence, en tout cas électorale, du PC baisse régulièrement, c'est de ne pas avoir compris que la société de consommation, c'était aussi une consommation qui faisait du bien, en tout cas qui, comme le dit Gérard Bellouin, procure de la jouissance.
Comment dire? C'est une question, mais ce n'est pas la question. Que les gens aient envie de mieux vivre, qu'ils aient envie, comme moi, d'avoir un smartphone, que l'individu à notre époque pense à sa place dans la vie, bon, c'est des problèmes indiscutables. Le capitalisme en jouit, et en même temps, il est normal pour un individu du XXIe siècle d'avoir envie de vivre mieux. Moi, à l'époque où je pensais tout est collectif, c'est là que tout se règle, elle est finie. Les communistes d'aujourd'hui veulent une société où l'individu se développe dans une société libre. Mais je voudrais m'en prendre un petit peu à Gérard.
Ce qui est de bonne guerre, hein, vu ce qu'il vous a dit depuis le début de l'émission.
Vous voyez le fond de ce qui nous sépare. C'est que ma une et ce que je raconte croient en l'avenir. Et pour les meilleures raisons du monde, titrer la fin du rêve socialiste, c'est-à-dire la fin du rêve socialo-communiste, c'est une position qu'on peut avoir. Mais je ne suis pas, comme tu achèves ton livre, de penser que rien se présente de grand et de beau dans cette société, qui changera, et elle changera. Parce que la finance maintenant, qui est la question, c'est plus le capitalisme de papa, le capitalisme des patrons, ils étaient durs, d'accord, mais ils produisaient, ils étaient au cœur d'un monde réel. La finance, c'est la saloperie intégrale. Vous vous rendez compte, on lit dans un journal, un type en Amérique veut acheter pour 80 milliards de dollars une autre usine, mais d'où ils viennent ces 80 milliards? Qui a donné cette richesse? Ce monde-là ne peut pas continuer. Donc, je trouve mon attitude, bien que je sais bien comme c'est compliqué, plus positive que la tienne, premièrement. Si je peux... je m'arrête là. Je m'arrête
oui,
là.
Mais... Et, écoute, là. Moi, je me méfie de l'annonce périodique que le capitalisme, ça ne peut plus durer. Parce que c'est ce qu'on a dit après la guerre de 14. Ça a été une telle boucherie qu'on a dit et qu'on a accusé le capitalisme, les marchands de canons. C'est pas possible que ça dure. Le jeudi noir de 29 à Wall Street, on a dit c'est cette crise mondiale du capitalisme. On dit, Il creuse sa tombe. On a dit la même chose à la Libération. Et moi, puisqu'on se connaît depuis longtemps, je t'ai souvent entendu dire qu'on vivait à la veille de changements importants qui allaient se produire. Moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. J'ai essayé de faire le bilan des deux forces qui sont réclamées du socialisme dans notre pays, aussi bien du PC que du PS. Je ne suis pas plus tendre à l'égard du PS, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as remarqué.
J'ai remarqué.
Mais pour ce qui est de l'avenir, moi, je pense que il faut peut-être ajouter à la lecture de Marx, la lecture de Tocqueville, et je le cite, que il ne parlait pas du capitalisme, il parlait de la démocratie, qui dégrade les hommes sans les tourmenter et les transforme en une foule innombrable d'hommes semblables qui tournent sans repos pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée des autres. Il parlait de la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la démocratie, mais il faut voir que tout système social a des effets contradictoires et a des effets de la démocratie. C'est aussi cet aspect des choses et lié au marché. Et je renvoie au livre de Dominique Schnepper qui a analysé les conséquences de la liaison entre cet aspect de la démocratie et le développement incessant et efflorescent du marché capitaliste pour montrer combien était maintenant difficile combien la notion de changement de système avait des difficultés à se frayer un chemin.
Je vais vous laisser répondre, Henri Malberg, mais est-ce que ça veut dire, donc, que selon vous, Gérard Belloin, le capitalisme a gagné et qu'on est dans une situation qui est figée pour longtemps ? Quelques mots.
Non, j'en sais rien. Non, je souhaiterais que ça ne dure pas trop longtemps, mais j'en sais rien. J'ai pas de l'histoire n'est pas écrite d'avance, je n'ai pas de boule de cristal.
Henri Malberg ?
Si vous permettez, si les gens qui m'écoutent le permettent, on ne perd que les batailles qu'on a déjà perdues dans sa tête. Et il y a une part de réalisme qui peut être le masque du renoncement. C'est mot à mot ce que j'ai mis dans mon livre. On ne perd que les batailles qu'on a déjà perdues. Et le réalisme, on n'y peut rien, on n'y touche pas. Évidemment, je ne suis pas le niais aux 40 enfants qui dit toujours « Yaka, il faut », comme tu me l'as dit à demi-mot, mais on ne perd que celle-là. D'autre part, l'histoire de mon parti, qui fut le tien pendant longtemps, est magnifique, de vraies victoires, qui n'étaient jamais acquises, battent le fascisme. Nous sommes le seul pays d'Europe où le fascisme n'a pas triomphé, après avoir été un mouvement de masse, la France. Faire le Front populaire, qui est un bijou, un demi-siècle après encore, aider l'Espagne et sauver l'honneur de la France. Au-delà de la terrible erreur qui a suivi le pacte germano-soviétique, j'en parle dans mon livre quand tu l'as, enfin bon, j'en parle. La résistance, la bataille sur le Vietnam, la guerre d'Algérie, la France n'est pas un petit pays merdique qui supporte tout. J'ai confiance dans ce peuple. En ce moment, tu as raison, les gens sont comme aphones. Ils sont catastrophés par ce que fait ce pouvoir, Valls et Hollande. Et on ne voit pas grand-chose. Mais je suis sûr que des millions de gens se demandent comment sortir de cette affaire. Et, je termine, il n'y a pas un projet communiste de transformation communiste. Ça, c'est fini, ça ne va pas. Mais il y a des idées très fortes des communistes. Par exemple, il faut prendre comme cœur de cible la finance. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il y a des livres qui paraissent. J'ai vu dans le Figaro, dans le Monde. Il faut. Est-ce qu'on va arriver à lever un peuple qui dit ça, ça va comme ça ? Il y a la question de la démocratie. Maintenant, les gens les couillonnent. Tu votes une fois, tu rentres chez toi. Il y a la question de la fraternité. Je regarde la télé. Tous les jours, il y a un crime. Mais la France est un pays où il y a des millions de criminels. Tous les jours, il y a 20 actions de solidarité d'un peuple qui existe.
Mais ces idées-là, Henri Malberg, est-ce qu'elles ont encore besoin d'un parti comme le Parti communiste, voire des partis politiques ?
Merci beaucoup.
Est-ce que ces idées-là, elles ont besoin d'un parti comme le PC et des partis politiques ? Ou est-ce qu'elles ne peuvent pas être véhiculées autrement qu'à travers des organisations dont... Votre ancien, je parle à vous, Henri Malberg, votre ancien premier secrétaire du PCF, Robert Hue, est en train d'expliquer à travers lui aussi un livre qui sort en cette rentrée que les partis politiques n'ont plus aucun avenir et qu'ils sont en train de mourir.
Merci beaucoup, parce que c'est une question très importante. Est-ce qu'on peut être communiste sans être membre du Parti communiste ? Évidemment. Il y a, je pense, en France, des centaines, peut-être quelques millions de personnes, même quand ils ne sont pas communistes, qui ont des envies de changer la société, qui sont intelligents, qui réfléchissent, ils ne bougent pas pour l'instant. Donc, première question, tout ce qui est, j'ai écrit un article hier dans l'Humain là-dessus, ça s'est trouvé comme ça, tout ce qui est communiste ne doit pas passer par la case communiste, je l'ai pensé, je ne le pense plus. J'ai même pensé bêtement.
Et pourtant, vous dites dans votre livre, il faudrait vraiment que les gens militent au sein des partis.
Ensuite,
c'est important.
Deuxième question, deuxième partie. Je crois que l'idée que les politiciens sont tous pourris, que la politique c'est de la oui, est une idée terrifiante. Parce que les couches dirigeantes font de la politique. Ils se réunissent, ils passent autant de temps à faire de la politique qu'à gagner de l'argent. Il faut que le peuple réinvestisse la politique. Et je ne dis pas « venez chez moi ». Au moins, faites de la politique, que vous soyez de droite, que vous soyez socialiste. Je crois toujours, moi, que ce n'est pas la fin du rêve socialiste. Il faut qu'on remette la politique, parce qu'il n'y a pas de démocratie si le peuple se remet de la politique à un petit noyau dirigeant. Donc, oui, je suis pour... Moi, je n'utilise jamais le mot politicien parce que c'est un mot qui ne passe pas. Parce que politicien, c'est un vilain mot. Ça veut dire que politique et la pourriture sont ensemble. Il faut des partis politiques, des gens qui s'y engagent, qui s'y intéressent. Je dis bien qu'ils soient de droite ou de gauche, socialiste ou communiste. Et je suis pour le pluralisme. Et je suis pour une vie politique riche. Et peut-être, Chirard, il va me trouver une nouvelle fois optimiste. La politique en France, tu le dis dans ton livre. C'est trois siècles. Tu parles de la Révolution française. Depuis des siècles en France, on fait de la politique intelligemment. Je ne crois pas à la mort de la politique.
Gérard Bellouin, vous, ce que vous dites dans votre livre, à la fin, enfin, je vais le résumer, mais moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas, c'est militer, pourquoi pas, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut d'abord commencer par refaire une analyse complète du monde dans lequel on vit, avant de savoir pourquoi on va militer.
Il faut faire les deux. Moi, je suis pour qu'on essaie de penser. Mais il y a beaucoup de gens qui essaient de penser la situation. Ça, c'est évident. Il faut penser la situation. Il faut essayer de penser un avenir commun pour nos concitoyens. Il faut essayer, mais ça, il faut bien dire qu'on est dans un champ de ruines, de créer des lieux pour élaborer la politique et faire de la politique. Seulement,
ces lieux, ce sont les partis politiques.
Oui, mais enfin, dans quel état est le Parti Socialiste ? Le Parti Socialiste ne fait plus de politique. Enfin, je veux dire, les militants, on n'a pas envie, quand on est un simple citoyen, d'adhérer au parti de gauche en ce moment. Ce sont des champs de ruines. Ce sont devenus des écuries pour les élections, pour les candidats aux élections. Le PS est dominé par les experts, par les attachés de parlementaires, par les cabinets ministériels, etc. etc. Et par tous ceux qui ambitionnent un poste d'élu à tel ou tel endroit.
Heimelberg.
J'ai dans mon livre cité des chiffres auxquels je ne croyais pas. Savez-vous combien de gens en France sont membres d'une association depuis la Solidarité et la Croix-Rouge de Secours Populaire ? 12 millions. Ça veut dire que ce peuple qu'on dit dépolitisé, il est dans l'état que tu dis, Gérard, à certains égards. Mais il y a 12 millions de gens qui font des choses, qui s'intéressent à la chose publique.
Absolument.
C'est incroyable. Ces gens-là, au fond, ils font de la politique. Avant, je pensais que la politique, c'était que les partis politiques. On a pensé ça, n'est-ce pas ? Le Parti communiste étant un parti d'avant-garde, paré de toutes les qualités, avec le marxisme, la classe ouvrière, les intellectuels. Je ne pense plus ça. On a retiré le mot d'avant-garde. Le parti politique et le Parti communiste sont une force. Mais pour changer la société, ce qui est si difficile, il faut considérer qu'il faut que la politique fasse son trou, il faut que le mouvement associatif et démocratique fasse son trou, et il faut des partis politiques. C'est-à-dire, je réponds à votre question, je lis la presse, Maintenant, on dit, il y a même des livres qui disent la politique ta-ta-ta, il faut des mouvements, il faut des mouvements larges. Je suis pour les mouvements larges. Mais si avec des mouvements larges et pas de partis politiques qui posent les questions les plus générales, on n'irait pas loin.
Gérard Bellouin.
Oui, moi je nie pas l'activité des associations dont tu parles. Il y a un tissu effectivement associatif, mais la difficulté c'est de passer de ce réel foisonnement d'activités à l'élaboration d'un projet. Et c'est, encore une fois, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince parce que moi j'en reviens à cette idée que l'espérance du changement elle est contrebalancée par la peur du changement, par le souci de chacun de sauvegarder ce à quoi il est parvenu. Enfin,
d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut expliquer peut-être cette peur du changement qu'un parti, alors là, peut-être contrairement au parti plus traditionnel, mais semble se porter plutôt bien d'un point de vue militant, à savoir le Front National, qui est dans les élections et dans les sondages, réalise des scores assez impressionnants.
Oui, mais enfin, sauf que c'est quand même pas l'avenir souhaitable dont vous parlez. Ça risque même d'être catastrophique. Et je ne pense pas que ce soit un parti d'élaboration politique au sens où je l'entends. Parce que le programme du Front National, à ma connaissance, il est assez... ont-ils un programme, d'ailleurs ?
Sauf que c'est peut-être le parti qui sait aujourd'hui le mieux s'adresser aux classes populaires, Henri Malberg.
Oui, mais il ne s'agit pas seulement de s'adresser aux... Excusez-moi. Aux classes populaires, il faut créer les conditions pour qu'elles puissent s'engager sur un projet, qu'elles puissent effectivement être partie prenante d'une solution politique. Et ce que je constate, c'est que les communistes ont tué leur parti et les socialistes sont en train de faire la même chose.
Bon, moi, je n'ai pas tué mon parti, j'y suis toujours.
Oui, mais enfin, entre 3 et 4 % des voix, c'est pas la...
Les dernières élections étaient mauvaises. Mauvaises. Elles ont montré une difficulté des gens à s'engager. Mais là, Marine Le Pen, c'est un vrai problème. Mais la force que prend le vote Front National, à mon sens, c'est pas seulement la démagogie en mots du Front National.
C'est bien parce qu'elle apporte aussi des réponses.
Oui, mais c'est parce que la gauche n'apporte pas bien les réponses. Vous vous rendez compte le désastre. Les gens votent Hollande. J'ai voté Hollande. Ils ont voté non pas en pensant que c'était la révolution, qu'au moins il y aurait des avancées sociales un peu, ou la défense sociale, qu'il y aurait une France pacifique, qu'il y aurait une France qui rayonne. Et ils ont un pouvoir qu'ils commencent à mépriser. Ça veut dire que le vide terrifiant de la gauche, c'est l'une de nos préoccupations. Il faut qu'on arrive, et là je te rejoins Gérard, il faut qu'on arrive à dégager à gauche des grands objectifs communs, qui soient des objectifs de gauche. Et puisqu'on arrive à la fin, si je peux dire un mot, pourquoi cette société fout le camp et foutra de plus en plus le camp? Vous ne pouvez pas créer un monde où à un bout, des gens jonglent avec les milliards. À l'autre, il y a 3,5 millions de chômeurs. 5 millions avec ceux à temps. 1 million au resto du cœur. Parce que on dit les gens, ils ont des portables. Moi, je vois des mômes avec des portables et je vois la manière dont ils vivent. Donc, ça fait partie maintenant, je dirais, de la vie normale. Mais il y a des millions de gens dans ce pays qui commencent à se dire qu'ils sont les vaincus. Et ceux-là, c'est une réserve pour le Front National. Et à ceux-là, moi, j'ai envie de dire, les lendemains peuvent chanter.
Eh bien, merci beaucoup Henri Malberg. Je rappelle le titre de votre livre, Incorrigiblement communiste, aux éditions de l'Atelier. Je précise que demain, vous serez présent à la Fête de l'Humanité. Une carte blanche vous est consacrée. C'est au village du livre, à 18h45. Gérard Bellouin, je ne sais pas si vous y allez encore à la fête de l'Humain. Vous n'y avez pas été invité.
Pas bien. On t'invite. Vends une vignette.
Et voilà, vous êtes officiellement invité demain à la Courneuve, à la Fête de l'Humain. Je rappelle également le titre de votre ouvrage aux éditions du Bordelot. la fin du rêve socialiste. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette discussion. L'émission, vous pouvez la prolonger comme chaque jour sur notre site internet franceculture.fr à la page du grain à moudre. On se retrouve lundi pour une émission, là encore, consacrée à une question politique. Nous poserons la question suivante. Le Front National est-il aux portes du pouvoir ? Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir.
Merci. Dans quelques minutes, eh bien, c'est le rendez-vous, journal sur le fil de l'actualité culturelle, médiatique et musicale. Une émission Welbeck ce soir au cinéma avec les réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine et Leçon d'économie avec Bernard Maris. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Parce que vous écoutez France Culture, il est bien 19h.